Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast présenté par Loïc Morel pour Découvre Bitcoin, dans lequel nous allons parler du BIP47 et des codes de paiement réutilisables. C'est parti! BIP47, le vilain petit canard. Il est trop grand, disaient-ils tous, et le coq d'Inde qui était venu au monde avec des éperons et qui se croyait empereur se gonfla comme un bâtiment toute voile dehors et marcha droit sur lui en grande fureur rouge jusqu'aux yeux. Le pauvre canet ne savait s'il devait s'arrêter ou marcher, il eut bien du chagrin d'être bafoué par tous les canards de la cour. Un des fléaux les plus importants sur le protocole Bitcoin est la réutilisation d'adresses. La transparence et la distribution du réseau rend cette pratique dangereuse pour la confidentialité de l'utilisateur. Pour éviter les problèmes liés à cela, il est conseillé d'utiliser une nouvelle adresse de réception vierge pour tout nouveau paiement entrant vers un portefeuille, ce qui peut être compliqué à réaliser dans certains cas. Ce compromis est vieux comme le white paper. Satoshi nous mettait déjà en garde contre ce risque dans son ouvrage publié fin 2008. Je le cite en anglais, « As an additional firewall, a new keeper should be used for each transaction to keep them from being linked to a common owner. » En français, cela donne, en guise de pare-feu additionnel, une nouvelle paire de clés pourrait être utilisée pour chaque transaction afin de les garder non liées à un propriétaire commun. Fin de la citation. De nombreuses solutions existent pour recevoir de multiples paiements sans pour autant produire de réutilisation d'adresse. Chacune d'elles dispose de ses compromis et de ses inconvénients. Parmi toutes ces solutions, il y a le BIP47, une proposition développée par Justus Ranvier et publiée en 2015 permettant de générer des codes de paiement réutilisables. Leur objectif est de pouvoir réaliser plusieurs transactions vers une même personne sans pour autant réutiliser d'adresse. Au départ, cette proposition a reçu un accueil méprisant de la part d'une partie de la communauté et elle n'a jamais été ajoutée à Bitcoin Core. Certains logiciels ont tout de même choisi de l'implémenter de leur côté. Ainsi, Samurai Wallet a développé sa propre implémentation du BIP47 nommée PayNim. Aujourd'hui, cette implémentation est évidemment disponible sur Samurai Wallet pour les smartphones mais également sur Sparrow Wallet pour les PC. Avec le temps, Samurai a programmé de nouvelles fonctionnalités directement liées à PayNim. À présent, il existe tout un écosystème d'outils permettant d'optimiser la confidentialité de l'utilisateur fondé sur PayNim et sur BIP47. Dans cet épisode, vous découvrirez le principe du BIP47 et de PayNim, les mécanismes de ces protocoles et les applications pratiques qui en découlent. Je vais uniquement aborder la première version du BIP47, celle qui est actuellement utilisée pour PayNim, mais les versions 2, 3 et 4 fonctionnent pratiquement de la même façon. La seule différence majeure se trouve au niveau de la transaction de notification. La version 1 utilise une adresse simple avec l'opReturn pour la notification. La version 2 utilise un script multisig avec l'opReturn. Et la version 3 et 4 utilisent simplement un script multisig. Donc les mécanismes qui sont évoqués dans cet épisode, et notamment les méthodes cryptographiques étudiées, sont applicables aux 4 versions. Et donc ce que je disais, à date, l'implémentation PayNim sur Samurai Wallet et Sparrow Wallet utilise la première version du BIP47, c'est-à-dire celle que l'on va étudier dans cet épisode. Le problème de la réutilisation d'adresses. Une adresse de réception est utilisée pour recevoir des bitcoins. Elle est générée à partir d'une clé publique en la hachant et en lui appliquant un format spécifique. Ainsi, elle permet de créer une nouvelle condition de dépense sur une pièce afin d'en modifier le propriétaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur la génération d'une adresse de réception, je vous conseille de lire mon e-book gratuit Bitcoin démocratisé, en l'occurrence le tome 2. Dans la dernière partie, nous évoquons la dérivation d'adresse de réception en détail. Vous pouvez le retrouver sur pendule.fr dans la section ressources. Je continue. Par ailleurs, vous avez sûrement déjà entendu de la part d'un bitcoiner avisé que les adresses de réception sont à usage unique et qu'il faut de ce fait en générer une nouvelle pour tout nouveau paiement entrant vers votre portefeuille. D'accord, mais pourquoi ? Fondamentalement, la réutilisation d'adresses ne met pas en danger directement vos fonds. L'utilisation de la cryptographie sur les courbes elliptiques permet de prouver au réseau que vous êtes bien en possession d'une clé privée sans pour autant révéler cette clé. Vous pouvez donc bloquer plusieurs UTXO différents sur une même adresse et les dépenser à différents moments. Si vous ne révélez pas la clé privée associée à cette adresse, personne ne pourra accéder à vos fonds. Le problème de la réutilisation d'adresses est plutôt de l'ordre de la vie privée. Comme évoqué en introduction, la transparence et la distribution du réseau Bitcoin font que n'importe quel utilisateur, pourvu qu'il ait accès à un nœud, est en capacité d'observer les transactions du système de paiement. De ce fait, il peut voir les différents soldes des adresses. Satoshi Nakamoto a alors évoqué la possibilité de générer de nouvelles paires de clés et ainsi de nouvelles adresses pour tout nouveau paiement entrant vers un portefeuille. L'objectif serait d'avoir un pare-feu supplémentaire en cas d'association entre l'identité de l'utilisateur et une de ses paires de clés. Aujourd'hui, avec la présence de sociétés d'analyse de chaîne et le développement du KYC, l'utilisation d'adresses vierges n'est plus un pare-feu supplémentaire, mais bien une obligation pour quiconque se soucie un minimum de sa vie privée. La recherche de confidentialité n'est pas un confort ni un fantasme de bitcoiner maximaliste. C'est un paramètre spécifique qui touche directement à votre sécurité personnelle et à la sécurisation de vos fonds. Pour vous le faire comprendre, voici un exemple très concret. Bob achète du Bitcoin en DCA, Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire qu'il acquiert une petite somme de Bitcoin à intervalles réguliers afin de lisser son prix d'entrée, et Bob envoie systématiquement les fonds achetés vers une même adresse de réception. Il achète, par exemple, 0,01 Bitcoin toutes les semaines et les envoie vers cette même adresse. Au bout de 2 ans, Bob a accumulé un Bitcoin entier sur cette adresse. Le boulanger au coin de sa rue accepte les paiements en Bitcoin. Tout heureux de pouvoir dépenser des Bitcoins, Bob s'en va acheter sa baguette en sats. Pour payer, il utilise les fonds bloqués avec son adresse. Son boulanger sait donc dorénavant qu'il possède un bitcoin. Cette somme importante pourrait faire des envieux et Bob risque potentiellement de subir une attaque physique par la suite. La réutilisation d'adresses permet donc à un observateur de faire un lien indéniable entre vos différents outils EXO et donc parfois entre votre identité et tout votre portefeuille. C'est pour cette raison que la majorité des logiciels de portefeuille bitcoin vous génèrent automatiquement une nouvelle adresse de réception lorsque vous cliquez sur le bouton « Recevoir ». Pour l'utilisateur régulier, prendre l'habitude d'utiliser des adresses vierges n'est de ce fait pas d'un grand inconvénient. En revanche, pour un commerce en ligne, un exchange, une campagne de donation, cette contrainte peut rapidement devenir ingérable. Il existe de nombreuses solutions pour ces organisations. Chacune d'entre elles dispose de ses avantages et de ses inconvénients. Mais à ce jour, et comme nous le verrons plus loin, le BIP47 se différencie réellement des autres. Ce problème de la réutilisation d'adresses est loin d'être négligeable sur Bitcoin. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, disponible sur l'article original sur pendule.fr du coup, extrait du site OXT.me, le taux global de réutilisation d'adresses par les utilisateurs de Bitcoin est actuellement de 52%, donc en l'occurrence avait été relevé en septembre 2022. La majorité de ces réutilisations provient des exchanges qui, pour des raisons d'efficacité et de facilité, réutilisent une même adresse de nombreuses fois. À ce jour, le BIP47 serait la meilleure solution pour endiguer ce phénomène chez les exchanges. Cela permettrait d'engager à la baisse ce taux global de la réutilisation d'adresses sans pour autant occasionner trop de friction pour ces entités. Cette mesure globale sur l'ensemble du réseau est une donnée particulièrement cohérente dans ce cas-là. En effet, la réutilisation d'adresses n'est pas uniquement un problème pour la personne qui réalise ce type de pratique, mais également pour toute personne qui réalise des transactions avec celle-ci. La perte de confidentialité sur Bitcoin agit comme un virus et se propage d'utilisateur en utilisateur. Étudier une mesure globale comme celle-ci sur toutes les transactions du réseau nous permet de prendre conscience de l'ampleur de ce phénomène. Principe du BIP47 et de PayNim. BIP47 vise à proposer une façon simple de recevoir de nombreux paiements tout en ne faisant pas de réutilisation d'adresse. Son fonctionnement est fondé sur l'utilisation d'un code de paiement réutilisable. Ainsi, plusieurs émetteurs pourront envoyer plusieurs paiements vers un unique code de paiement réutilisable d'un autre utilisateur, sans que le destinataire ait besoin de transmettre une nouvelle adresse vierge pour chaque nouvelle transaction. Un utilisateur peut alors communiquer librement son code de paiement, sur les réseaux sociaux, sur son site web, sans risque de perte de confidentialité, contrairement à une adresse de réception classique ou à une clé publique. Pour réaliser un échange, les deux utilisateurs devront disposer d'un portefeuille Bitcoin avec une implémentation du BIP47, comme PayNim sur Samurai ou Sparrow Wallet, et l'association des codes de paiement des deux utilisateurs va permettre d'établir un canal secret entre eux. Pour instaurer proprement ce canal, l'émetteur va devoir réaliser une transaction sur la chaîne Bitcoin que l'on appelle la transaction de notification. Je vous en parlerai un peu plus loin dans cet épisode. L'association des codes de paiement des deux utilisateurs génère des secrets partagés permettant eux-mêmes de générer un grand nombre d'adresses de réception Bitcoin uniques, exactement 2 puissance 32. Ainsi, en réalité, le paiement avec BIP47 n'est pas envoyé à destination du code de paiement, mais bien à destination d'adresses tout à fait classiques, elles-mêmes dérivées depuis les codes de paiement des protagonistes. Le code de paiement agit donc comme un identifiant virtuel, dérivé depuis la graine du portefeuille, et dans la structure de dérivation du portefeuille HD, le code de paiement se trouve en profondeur 3, au niveau des comptes du portefeuille, donc comme une XPub par exemple. Son objectif de dérivation se note 47 apostrophe ou 47 prime. En hexadécimal, cela donne 0x800002F, en référence donc au BIP47. Et donc un chemin de dérivation d'un code de paiement réutilisable sera par exemple m/47'/0'/0'. Voilà, ça va ressembler à un chemin de dérivation d'une XPub, Si vous ne savez pas ce qu'est un chemin de dérivation, je vous invite à écouter le premier épisode de Checksum sur le podcast de l'entonnoir du Bitcoin, dans lequel nous décrivons justement le fonctionnement de ces chemins de dérivation. Je continue. Afin que vous puissiez imaginer à quoi ressemble un code de paiement, voici le mien. Donc, sur l'article original, on peut voir mon code de paiement qui commence par PM8, puis qui continue, on a plein de caractères, PM8, TJ, SBI, QMN, etc., etc. Et ce code de paiement, il peut être également représenté en QR code, sous forme de QR code, pour pouvoir le flasher et pour pouvoir le donner plus facilement à un autre utilisateur. Enfin, nous pouvons parler également des Paynim bots, ces robots que l'on aperçoit parfois sur Twitter, en photo de profil. Ce sont simplement des représentations visuelles de votre code de paiement réalisées par Samurai Wallet. Ils sont créés grâce à une fonction de hachage, ce qui les rend presque uniques. Voici le mien avec son identifiant, donc l'identifiant de mon Paynim en l'occurrence, qui est plus simple que le code de paiement lui-même. Ici, s'écrit P Strobing Pond 8B1, donc c'est assez court pour l'identifier, c'est très bien. Ces bots n'ont aucune réelle utilité technique. Au lieu de cela, ils permettent de faciliter les interactions entre les utilisateurs en créant une identité visuelle virtuelle. Pour l'utilisateur, le processus d'un paiement BIP47 avec l'implémentation Paynim est extrêmement simple. Imaginons qu'Alice souhaite envoyer des paiements à Bob. Étape 1, Bob diffuse son QR code ou directement son code de paiement réutilisable. Il peut le placer sur son site web, sur ses différents réseaux sociaux publics ou encore l'envoyer à Alice grâce à un autre moyen de communication, par une messagerie, n'importe comment. Ce n'est pas une donnée sensible, le code de paiement réutilisable, on peut le diffuser librement. Deuxième étape, Alice ouvre son logiciel Samurai ou Sparrow et scanne ou colle le code de paiement de Bob. Troisième étape, Alice relie son Paynim avec celui de Bob, ce que l'on appelle follow en anglais. Cette opération se fait en dehors de la blockchain et demeure complètement gratuite. Quatrième étape, Alice connecte son Paynim avec celui de Bob, ce que l'on appelle connect en anglais. Cette opération se fait on-chain et Alice doit payer les frais de minage de la transaction ainsi qu'un frais fixe de 15 000 sats pour le service sur Samurai. Les frais de service sont offerts sur Sparrow. Et cette étape, c'est ce que l'on appelle la transaction de notification. Cinquième étape, une fois la transaction de notification confirmée, Alice peut créer une transaction de paiement BIP47 à destination de Bob. Son portefeuille va automatiquement générer une nouvelle adresse de réception vierge pour laquelle seul Bob dispose de la clé privée. Réaliser la transaction de notification, c'est-à-dire connecter son Paynim, est une étape préalable obligatoire pour réaliser des paiements avec BIP47. En revanche, une fois que celle-ci est effectuée, l'envoyeur pourra réaliser de multiples paiements vers le destinataire, exactement 2 puissance 32, sans pour autant avoir besoin de réaliser de nouveau la transaction de notification. Vous avez pu voir qu'il existe deux opérations différentes qui permettent de lier des Paynim entre eux, relier et connecter. L'opération de connexion, c'est-à-dire connecter, correspond à la transaction de notification du BIP47, qui est simplement une transaction Bitcoin avec certaines informations transmises grâce à une sortie up-return. Ainsi, elle aide à établir une communication chiffrée entre les deux utilisateurs afin de produire les secrets partagés nécessaires pour générer de nouvelles adresses de réception vierges. En revanche, l'opération de liaison, follow ou relier, permet d'établir un lien sur Soroban, un protocole de communication chiffré fondé sur Tor, spécialement développé par les équipes de Samurai. Donc, pour résumer, le fait de relier de Paynim follow en anglais est totalement gratuit. Cela aide à établir des communications off-chain chiffrées, notamment afin d'utiliser les outils de transactions collaboratives de Samurai, les transactions Stowaway, les transactions Stonewall X2, etc. Et cette opération est spécifique à Paynim, elle n'est pas décrite dans le BIP47. En revanche, le fait de connecter deux Paynim est payant. Cela implique de réaliser la transaction de notification dans le but de lancer la connexion. Son coût est constitué d'éventuels frais de service, des frais de minage également de la transaction, et de 546 sats qui sont envoyés à l'adresse de notification du destinataire pour le prévenir de l'ouverture du canal. Contrairement à la dernière opération, celle-ci est liée au BIP47. Et une fois effectuée, l'envoyeur peut ensuite réaliser plusieurs paiements BIP47 vers le destinataire sans devoir re-réaliser de nouveau cette transaction de notification. Il faut noter tout de même que sur Samurai et sur Sparrow, afin de pouvoir connecter deux Paynim, c'est-à-dire transaction de notification BIP47, il faut que les deux soient déjà reliés, c'est-à-dire reliés via Soroban, c'est-à-dire le protocole spécifique à Samurai et à Sparrow. Ensuite, sur l'article que vous pouvez retrouver sur pendule.fr sur le BIP47, vous pourrez voir qu'il y a deux tutoriels complets pour savoir utiliser le BIP47, en l'occurrence Paynim, sur Samurai Wallet et également sur Sparrow Wallet. Donc là, je ne vais pas vous les donner à l'oral dans cet épisode puisque cela n'a pas de sens, mais si vous voulez savoir comment est-ce que l'on utilise concrètement le BIP47, puisque là, cela semble assez compliqué à l'oral, mais en réalité, l'utilisation pratique du BIP47 est extrêmement simple. Moi, je veux rentrer dans les détails dans mon épisode pour que vous puissiez comprendre quelle est la cryptographie en jeu derrière, quels sont les rouages du BIP47. Mais l'utilisation concrète du BIP47 est extrêmement simple à comprendre. Donc, je vous invite à aller voir ce tutoriel si vous souhaitez en savoir plus sur mon article disponible sur pendule.fr dans la section blog. Voilà, je continue la lecture audio de l'article. Les rouages du BIP47. Pour étudier les mécanismes du BIP47, il est essentiel de comprendre la structure du portefeuille déterministe hiérarchique, HD, les mécanismes de dérivation de paires de clés-filles, ainsi que les principes de la cryptographie sur les courbes elliptiques. Fort heureusement, vous pouvez retrouver sur mon blog toutes ces informations nécessaires à la compréhension de cette partie, notamment dans l'article « Comprendre les chemins de dérivation d'un portefeuille Bitcoin » et dans l'e-book numéro 2 « Bitcoin démocratisé » qui est gratuit et disponible également en téléchargement gratuitement, librement, sur mon site web pendule.fr. Le code de paiement réutilisable. Comme expliqué dans la deuxième partie de cet épisode, le code de paiement réutilisable se trouve en profondeur 3 du portefeuille HD. Il est finalement quelque peu assimilable à une XPUB, autant dans son placement que dans sa structure et dans son rôle. Voici les différentes parties qui composent un code de paiement de 80 octets. L'octet 0, la version, si l'on utilise la première version du BIP47, alors cet octet sera égal à 0x01 en hexadécimal. L'octet 1, c'est-à-dire le deuxième octet, c'est le champ de bits. Cet espace est réservé pour donner des indications supplémentaires en cas d'utilisation spécifique. Si vous utilisez simplement Paynim, ce deuxième octet sera égal à 0, tout simplement. L'octet 2 représente la parité de Y. Donc cet octet, il va indiquer 0x02 ou 0x03 en fonction de la parité, c'est-à-dire nombre pair ou nombre impair, de la valeur de l'ordonnée de notre clé publique associée au code de paiement. Pour avoir plus d'informations sur cette pratique qui s'appelle la compression de clés publiques, je vous invite encore une fois à lire le deuxième tome de mon e-book Bitcoin démocratisé, de ma série d'e-book Bitcoin démocratisé. De l'octet 3 à l'octet 34, on va avoir la valeur de X de la clé publique. Voilà, donc c'est le reste de la clé publique compressée. Cet octet indique l'abscisse de notre clé publique, la concaténation de X et de la parité de Y nous donne notre clé publique compressée. Ensuite, de l'octet 35 à l'octet 66, on a le code de chaîne qui est associé à la clé publique. Cet espace est réservé pour le code de chaîne associé à la clé publique susmentionnée. De l'octet 67 à l'octet 79, on a du rembourrage, donc cet espace est réservé pour de possibles futures évolutions. Pour la version 1, on y met simplement des zéros afin de remplir jusqu'à 80 octets, soit la taille normale des données d'une sortie up-return. Voici la représentation hexadécimale de mon code de paiement réutilisable présenté dans la partie précédente avec les couleurs correspondantes aux octets présentés ci-dessus. Donc sur mon article, vous pourrez retrouver la représentation hexadécimale de mon code de paiement. On peut y voir donc ça commence comme on a dit, 0x01, 0002. Ensuite, on a la valeur x de ma clé publique. Ensuite, on a tout le code de chaîne qui est associé à ma clé publique. Et ensuite, on a des zéros à la fin pour rembourrer. Ensuite, il faut également ajouter à ce code de paiement l'octet du préfixe P, permettant d'identifier d'un coup d'œil que l'on a affaire à un code de paiement, et cet octet est 0x47. Donc on rajoute 0x47 au début du code de paiement. Enfin, on calcule la somme de contrôle de ce code de paiement avec H256, c'est-à-dire un double hachage avec la fonction SHA-256, on récupère les 4 premiers octets de ce condensat et on les concatène à la fin. Donc la somme de contrôle, pour rappel, c'est ce qui permet d'être sûr que ce qu'il y a avant, c'est-à-dire ce qui est contrôlé, l'information qui est contrôlée, n'a pas été modifiée par rapport à l'information originale. Donc ça, ça permet d'être persuadé qu'on ne s'est pas trompé dans la notation de son code de paiement. Par exemple, quand on va l'envoyer à quelqu'un via une messagerie autre ou quand on va le diffuser sur notre site web, si la checksum est bonne, ça veut dire qu'il n'y a pas de faute, pas d'erreur, pas de typo dans le code de paiement que l'on a noté précédemment. C'est la même chose qui va être présente sur les adresses. En l'occurrence, pour les adresses SegWit, on utilise une autre technologie qui s'appelle le code BCH. On n'utilise pas de fonction de hachage. Mais sur les premières adresses de Bitcoin, par exemple, les Legacy, c'était exactement le même type de checksum avec un hachage double SHA-256. Je continue. Le code de paiement est pris. Il ne reste plus qu'à le convertir en base 58 pour pouvoir l'utiliser. Et en l'occurrence, ça va commencer par PM. Et ensuite, on va avoir donc tout notre code de paiement. Donc, comme vous pouvez le remarquer, cette construction du code de paiement ressemble fortement à la structure d'une clé publique étendue de type XPUB. Durant ce processus permettant de déboucher sur notre code de paiement, nous avons utilisé une clé publique compressée et un code de chaîne. Ces deux éléments sont le fruit d'une dérivation déterministe et hiérarchique depuis la graine du portefeuille, en suivant le chemin de dérivation suivant. m/47'(0'(0'). Concrètement, pour obtenir la clé publique et le code de chaîne du code de paiement réutilisable, on va calculer la clé privée maîtresse depuis la graine, puis dériver une perfille avec l'index 47 + 2^31, c'est-à-dire dérivation renforcée, et ensuite on dérive deux fois des paires de clés fille avec l'index 2^31, c'est-à-dire encore une fois une dérivation renforcée, et en l'occurrence avec le premier index, c'est-à-dire l'index 0 des dérivations renforcées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la dérivation de paires de clés filles au sein d'un portefeuille déterministe hiérarchique Bitcoin, je vous conseille encore une fois de regarder mes petits e-books. La méthode cryptographique, l'échange de clés Diffie-Hellman établi sur les courbes elliptiques, entre parenthèses, ECDH. La méthode cryptographique utilisée à la base du BIP47 est ECDH, Elliptic Curve Diffie-Hellman, donc en français cela donne échange de clés Diffie-Hellman établi sur les courbes elliptiques. Ce protocole est une variante de l'échange de clés Diffie-Hellman classique. Donc, si on étudie un petit peu Diffie-Hellman classique, dans sa première version, c'est un protocole d'accord de clés présenté en 1976 qui permet à deux personnes, à partir de deux paires de clés, donc clés publiques, clés privées, de déterminer un secret partagé en échangeant sur un canal de communication non sécurisé. Ce secret partagé peut ensuite être utilisé pour réaliser d'autres tâches. Typiquement, on peut utiliser ce secret partagé pour chiffrer et déchiffrer une communication sur un réseau non sécurisé. Pour réussir cet échange, Diffie-Hellman utilise l'arithmétique modulaire afin de calculer le secret commun. Voici son fonctionnement vulgarisé. Alice et Bob déterminent une couleur commune, par exemple le jaune. Cette couleur est connue de tous et c'est une donnée publique. Alice choisit une couleur secrète. Par exemple ici le rouge, et elle mélange les deux couleurs, ce qui lui donne de l'orange, puisqu'avant on avait du jaune. Bob choisit une couleur secrète, par exemple le bleu canard, et il va mélanger les deux couleurs, ce qui va lui donner du bleu ciel. Alice et Bob peuvent s'échanger les couleurs obtenues, l'orange et le bleu ciel, cet échange peut se faire sur un réseau non sécurisé et observé par des attaquants. Alice mélange la couleur bleu ciel de Bob avec sa couleur secrète, le rouge, et elle obtient du marron. Et Bob mélange de son côté également la couleur orange reçue d'Alice avec sa couleur secrète, le bleu canard, et il obtient cette même couleur marron. Dans cette vulgarisation, la couleur marron représente le secret partagé Diffie-Hellman entre Alice et Bob. Il faut imaginer qu'en réalité, il est impossible pour l'attaquant de séparer les couleurs orange et bleu ciel afin de retrouver les couleurs secrètes d'Alice et de Bob. Maintenant, étudions son fonctionnement réel. À première vue, Diffie-Hellman paraît complexe à appréhender. En réalité, le principe de fonctionnement est presque enfantin. Avant de vous détailler ces mécanismes, je vous rappelle rapidement deux notions mathématiques dont nous allons avoir besoin et qui, accessoirement, sont également utilisées dans de nombreuses autres méthodes cryptographiques. Alors, premièrement, on va revoir ce qu'est un nombre premier rapidement. Un nombre premier, c'est un entier naturel qui n'admet que deux diviseurs, 1 et lui-même, par exemple le chiffre 7 est premier, car on ne peut le diviser que par 1 et par 7, c'est-à-dire lui-même. En revanche, le chiffre 8 n'est pas premier, car on peut le diviser par 1, 2, 4 et 8. Il n'admet donc pas uniquement deux diviseurs, mais bien quatre diviseurs entiers et positifs. Deuxièmement, on va revoir ce qu'est le modulo. Donc le modulo, qui est parfois exprimé simplement avec le sigle mod ou avec le signe pourcentage, est une opération mathématique qui permet entre deux nombres entiers de renvoyer le reste de la division euclidienne du premier par le second nombre. Donc par exemple, si on fait 16 modulo 5, ça va être égal à 1. Voilà, puisque modulo 5, on veut pouvoir diviser le nombre le plus proche de 16, donc en l'occurrence 15, qui est divisible par 5 en restant sur des entiers. On divise 15 par 5, ça nous donne 3, vous voyez, donc on peut enlever ça. Et après, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste 1. C'est ça, c'est le reste de la division euclidienne du premier par le deuxième. Donc 16 modulo 5, dans mon exemple, c'est égal à 1. Et on va utiliser ces deux principes justement pour notre Diffie-Hellman. Donc, l'échange de clés Diffie-Hellman entre Alice et Bob fonctionne de telle façon. Premièrement, Alice et Bob déterminent deux nombres communs, P et G. P est un nombre premier. Au plus ce nombre P est grand, au plus Diffie-Hellman sera sécurisé. Et G, c'est une racine primitive de P. Ces deux nombres peuvent être communiqués en clair sur un réseau non sécurisé. Ce sont les équivalents de la couleur jaune dans la vulgarisation que j'ai donnée avant. Il faut simplement qu'Alice et Bob aient exactement les mêmes valeurs de P et de G. Une fois les paramètres choisis, Alice et Bob déterminent chacun de leur côté un nombre aléatoire secret. Le nombre aléatoire obtenu par Alice est nommé A. équivalent de la couleur rouge dans la vulgarisation. Et le nombre aléatoire obtenu par Bob est nommé B, c'est-à-dire l'équivalent de la couleur bleu canard dans la vulgarisation. Ces deux nombres doivent rester secrets, absolument. Ensuite, au lieu d'échanger ces nombres A et B, chaque partie va calculer A majuscule et B majuscule tels que A majuscule est égal à G puissance A minuscule modulo P. Je répète, A majuscule est égal à G puissance A minuscule modulo P. Et de l'autre côté, B est égal à G puissance B minuscule modulo P. Je répète, B majuscule est égal à G puissance B modulo P. Ces nombres A majuscule équivalent de la couleur orange dans la vulgarisation et B majuscule équivalent de la couleur bleue dans la vulgarisation vont être échangés entre les deux parties. L'échange peut se faire en clair sur un réseau non sécurisé. Alice, qui est maintenant en connaissance de B majuscule, va calculer la valeur de Z, minuscule, encore un nouveau nombre, tel que Z est égal à B majuscule puissance A minuscule modulo P. Je répète, Z est égal à B majuscule puissance A minuscule modulo P. Pour rappel, B majuscule, c'est égal à G puissance B minuscule modulo P. C'est le calcul qu'avait effectué Bob avant. On a donc Z qui est égal à ce que l'on a dit, B majuscule puissance A modulo P. Donc Z, finalement, B majuscule, c'est comme si c'était G puissance B minuscule. Donc Z, il est égal à G puissance B minuscule puissance A minuscule modulo P. Et conformément aux règles de calcul sur les puissances, par exemple, X puissance N puissance M, ça va être égal à X puissance N fois M. On a donc ici dans notre exemple, Z est égal à G puissance BA modulo P. Bob, qui est maintenant en connaissance de A, va également calculer la valeur de Z, de la même façon, mais de son côté, avec les infos qu'il a, donc c'est-à-dire Z est égal à A majuscule puissance B minuscule, son chiffre secret, modulo P. Et on a donc, de la même manière, Z est égal à A majuscule, c'est comme si on avait G puissance A minuscule, donc on a Z qui est égal à G puissance A minuscule puissance B minuscule modulo P. Donc Z est égal à G puissance AB modulo P, donc Z est égal à G puissance BA modulo P. Et on a bien exactement le même nombre pour Alice et pour Bob, sans qu'il n'ait eu à échanger directement ce nombre, et sans qu'un attaquant quelconque, qu'un observateur quelconque présent sur le réseau non sécurisé puisse déterminer les valeurs secrètes. Grâce notamment à la distributivité de l'opérateur modulo, Alice et Bob trouvent exactement la même valeur de Z. Ce nombre représente leur secret commun, c'est-à-dire l'équivalent de la couleur marron dans la vulgarisation précédente, et ils peuvent utiliser ce secret commun pour chiffrer une communication entre deux sur un réseau non sécurisé. Donc là, j'ai mis un schéma sur mon article présent sur pendule.fr. Je vous conseille d'aller voir ce schéma si vous n'avez pas bien compris le fonctionnement de Diffie-Hellman classique, c'est-à-dire pas Diffie-Hellman sur les courbes elliptiques, ça on va le voir après. Je vous conseille d'aller voir ce schéma, ce sera peut-être plus clair en visuel. Un attaquant en possession de P, G, A majuscule et B majuscule sera dans l'impossibilité de calculer A minuscule, B minuscule ou Z. Faire cette opération reviendrait à inverser l'exponentiation. Ce calcul est impossible à réaliser autrement qu'en essayant toutes les possibilités une par une, puisque l'on travaille sur un corps fini. Cela reviendrait à calculer le logarithme discret, c'est-à-dire la réciproque de l'exponentielle dans un groupe cyclique fini. Ainsi, du moment que l'on choisit un A minuscule et un B minuscule et un P également assez grand, Diffie-Hellman est sécurisé. Typiquement, avec des paramètres de 2048 bits, c'est-à-dire un nombre de 600 chiffres en décimales, tester toutes les possibilités pour A et B serait chimérique. À ce jour, avec des nombres de cette taille, l'algorithme est considéré comme sûr. C'est justement à ce niveau que réside le principal inconvénient du protocole Diffie-Hellman. Pour être sécurisé, l'algorithme doit utiliser des nombres de grande taille. En conséquence, on préfère aujourd'hui utiliser l'algorithme ECDH, une variante de Diffie-Hellman, utilisant une courbe algébrique, et en l'occurrence, une courbe elliptique. Cela va nous permettre de travailler sur des nombres beaucoup plus petits, tout en conservant une sécurité équivalente, et donc de réduire les ressources nécessaires pour le calcul et le stockage des clés. Le principe général de l'algorithme reste le même, mais au lieu d'utiliser un nombre aléatoire A minuscule et un nombre A majuscule calculé depuis A minuscule avec l'exponentiation modulaire, on va utiliser une paire de clés établies sur une courbe elliptique. Au lieu de s'appuyer sur la distributivité de l'opérateur modulo, nous allons utiliser ici la loi de groupe sur les courbes elliptiques, et plus précisément l'associativité de cette loi. Si vous ne disposez d'aucune notion sur le fonctionnement des clés privées et des clés publiques sur une courbe elliptique, je vous invite à aller voir mon premier e-book de la série Bitcoin démocratisé, notamment dans la deuxième partie, dans lequel je vous explique plus facilement ce fonctionnement, plus en détail, pour que vous puissiez comprendre, même si vous n'avez pas vraiment de connaissances en mathématiques. Je continue. Pour résumer grossièrement, une clé privée est un nombre aléatoire compris entre 1 et n-1, n étant l'ordre de la courbe, et une clé publique est un point unique sur la courbe déterminé grâce à la clé privée par addition et doublement de points depuis le point générateur, tel que k majuscule est égal à k minuscule fois g, où k majuscule est la clé publique, k minuscule est la clé privée, et g est le point générateur. Une des propriétés de cette paire de clés est qu'il est très facile de déterminer k majuscule en ayant connaissance de k minuscule et de g, mais il est aujourd'hui impossible de déterminer k minuscule en ayant connaissance de k majuscule et de g. C'est une fonction à sens unique. Autrement dit, on peut facilement calculer la clé publique en ayant connaissance de la clé privée, mais il est impossible de calculer la clé privée en ayant connaissance de la clé publique. Cette sécurité est encore une fois fondée sur l'impossibilité du calcul du logarithme discret. On va donc se servir de cette propriété pour adapter notre algorithme Diffie-Hellman, et ainsi le principe de fonctionnement de CDH est le suivant. Alice et Bob conviennent ensemble d'une courbe elliptique cryptographiquement sûre et de ses paramètres. Ces informations sont publiques, évidemment. Deuxièmement, Alice génère un nombre aléatoire k minuscule a qui sera sa clé privée. Cette clé privée doit rester secrète, elle détermine la clé publique k majuscule a par addition et doublement de points sur la courbe elliptique choisie. On a donc k majuscule a, c'est-à-dire clé publique d'Alice, est égal k minuscule a, c'est-à-dire clé privée d'Alice, fois g, soit le point générateur. Ensuite, Bob, de son côté, va également générer un nombre aléatoire qui sera sa clé privée. On va l'appeler k minuscule b pour Bob. Et il calcule également la clé publique qui est associée à cette clé privée. Cela va donner, on va l'appeler k majuscule b. On a donc, de la même manière que pour Alice, k majuscule b, c'est-à-dire clé publique de Bob, est égal à k minuscule b, c'est-à-dire clé privée de Bob, fois g, c'est-à-dire le point générateur. Alice et Bob s'échangent leurs clés publiques k majuscule a et k majuscule b sur un réseau public non sécurisé. Alice calcule un point x, y sur la courbe en appliquant sa clé privée k minuscule a depuis la clé publique de Bob k majuscule b. On va donc avoir le point x, y est égal à k minuscule a fois k majuscule b. Donc Alice récupère la clé publique de Bob et elle applique sur cette clé publique sa clé privée personnelle comme si c'était un point générateur. Ensuite, Bob va faire de même mais avec les informations qu'il a, donc il va calculer le point XY, c'est-à-dire le même point qu'Alice, sur la courbe en appliquant sa clé privée dont il a la connaissance, c'est-à-dire k minuscule b, depuis la clé publique d'Alice, c'est-à-dire k majuscule a. On a donc XY est égal k minuscule b fois k majuscule a, soit xy est égal clé privée de Bob fois clé publique d'Alice. Alice et Bob obtiennent le même point sur la courbe elliptique, et c'est ce que l'on appelle le secret partagé. Alors généralement, le secret partagé, c'est l'abscisse de ce point, c'est-à-dire le nombre x de ce point. Alors comment ça se fait qu'ils obtiennent bien le même secret partagé ? Bien, tout simplement puisque on a dit que xy d'un côté était calculé par k minuscule a fois k majuscule b, c'est-à-dire clé privée Alice fois clé publique Bob, et de l'autre côté, du côté de Bob, c'est calculé à l'inverse, c'est-à-dire clé privée de Bob fois clé publique d'Alice. Et donc, en fait, c'est facile à comprendre, puisque clé privée d'Alice fois clé publique de Bob est égal à clé privée Alice fois clé privée de Bob fois g, puisque k majuscule b est égal à k minuscule b fois g. On va pouvoir inverser k minuscule b et k minuscule a, donc on va bien avoir k minuscule b est égal k minuscule a fois g. Et puisque k minuscule a fois g, c'est égal à k majuscule a, eh bien on a bien k minuscule b fois k majuscule a est égal à k minuscule a fois k majuscule b. Un éventuel attaquant qui observe le réseau public non sécurisé pourra uniquement obtenir les clés publiques de chacun et les paramètres de la courbe choisie. Comme expliqué précédemment, ces deux informations seules ne permettent pas de déterminer les clés privées et donc l'attaquant ne peut pas accéder au secret. ECDH est de ce fait un algorithme permettant simplement un échange de clés. On va souvent l'utiliser aux côtés d'autres méthodes cryptographiques afin de définir un protocole plus global. Par exemple, ECDH est utilisé au cœur de TLS, Transport Layer Security, un protocole de chiffrement et d'authentification utilisé pour la couche de transport d'Internet. TLS utilise ECDHE exactement pour l'échange de clés, c'est une variante d'ECDH où les clés sont éphémères. Donc le petit E à la fin, c'est pour éphémère. Afin d'apporter de la confidentialité et de la persistance. En plus de ce dernier, TLS utilise également un algorithme d'authentification comme ECDSA, un algorithme de chiffrement tel KES et une fonction de hachage comme SHA-256. TLS va notamment définir le S dans HTTPS ainsi que le petit cadenas que vous voyez sur votre navigateur Internet en haut à gauche qui vous garantissent un chiffrement de la communication. Donc, si vous êtes actuellement sur un site internet, si vous avez une page web ouverte, vous êtes actuellement en train d'utiliser ECDH via TLS et vous l'utilisez sûrement tous les jours, quotidiennement, sans vous en rendre compte. La transaction de notification. Comme nous avons découvert dans la partie précédente, ECDH est une variante de l'échange Diffie-Hellman impliquant des paires de clés établies sur une courbe elliptique. Cela tombe bien, des paires de clés respectant ce standard, nous en avons plein nos portefeuilles Bitcoin. L'idée du BIP47 va donc être d'utiliser les paires de clés des portefeuilles déterministes hiérarchiques Bitcoin, des deux parties prenantes, pour établir des secrets partagés éphémères entre eux. Au sein du BIP47, on utilise donc plutôt ECDHE, c'est-à-dire Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral. ECDHE est utilisé une première fois dans le BIP47 pour transmettre le code de paiement de l'expéditeur vers le destinataire. C'est la fameuse transaction de notification. En effet, pour que BIP47 puisse être utilisé, il faut que chacune des deux parties, l'expéditeur qui envoie des paiements et le destinataire qui reçoit des paiements, soit au courant du code de paiement de l'autre partie. Cela sera nécessaire pour dériver des clés publiques éphémères et donc les adresses de réception dédiées. Avant cet échange, l'expéditeur est logiquement déjà en connaissance du code de paiement du destinataire puisqu'il a pu le récupérer off-chain, par exemple sur son site web ou sur ses réseaux sociaux. En revanche, le destinataire n'est pas nécessairement en connaissance du code de paiement de l'expéditeur. Il va falloir le lui transmettre, sans quoi il ne pourra pas dériver ses clés éphémères, et donc il sera en incapacité de savoir où sont ses bitcoins et de débloquer ses fonds. On pourrait ainsi le lui transmettre off-chain, avec un autre système de communication, mais cela poserait un problème en cas de récupération du portefeuille depuis la graine. En effet, comme je l'ai déjà évoqué, les adresses BIP47 ne sont pas dérivées depuis la graine du destinataire, sinon autant utiliser directement une XPub, mais elles sont bien le fruit d'un calcul impliquant les deux codes de paiement, celui du destinataire et celui de l'expéditeur. C'est pourquoi, si le destinataire perd son portefeuille et essaie de le récupérer depuis sa graine, il devra nécessairement disposer de tous les codes de paiement des personnes qui lui ont envoyé des bitcoins via BIP47. On pourrait donc facilement utiliser BIP47 sans cette transaction de notification, mais il faudrait que chaque utilisateur fasse une sauvegarde des codes de paiement de ses pairs. Cette situation restera ingérable tant que l'on n'aura pas trouvé un moyen simple et résilient de réaliser, de stocker et de tenir à jour ces sauvegardes. La transaction de notification est donc quasiment obligatoire dans l'état actuel des choses. En plus de ce rôle de sauvegarde des codes de paiement comme son nom l'indique, cette transaction joue également un rôle de notification du destinataire. Elle permet de signaler à son client qu'un tunnel vient d'être ouvert. Avant de vous expliquer plus en détail le fonctionnement technique de la transaction de notification, je souhaite vous parler un peu de modèle de confidentialité. En effet, celui du BIP47 va justifier certaines précautions prises lors de la construction de cette transaction initiale. Le code de paiement en lui-même ne constitue pas directement un risque de perte de confidentialité. Contrairement au modèle classique de Bitcoin qui permet de casser le flux d'informations entre l'identité de l'utilisateur et les transactions, notamment en gardant les paires de clés anonymes, le code de paiement, lui, peut être associé directement à une identité. Ce n'est évidemment pas une obligation, mais ce lien n'est pas dangereux. En effet, le code de paiement ne dérive pas directement les adresses utilisées pour recevoir des paiements BIP47. Au lieu de cela, les adresses sont obtenues en appliquant ECDHE entre des clés filles, des codes de paiement des deux parties. Un code de paiement seul ne constitue donc pas un risque direct de perte de confidentialité puisque l'on ne dérive que l'adresse de notification depuis celui-ci. On peut en tirer certaines informations, mais on ne pourra normalement pas savoir avec qui vous faites des transactions. Il est donc essentiel de maintenir cette séparation stricte entre les codes de paiement des utilisateurs. Dans cet objectif, l'étape de la communication initiale du code de paiement est un moment critique pour la confidentialité du paiement, et pourtant obligatoire pour le fonctionnement du protocole. Si un des deux codes de paiement peut être récupéré publiquement, par exemple sur un site web, le second code, c'est-à-dire celui de l'envoyeur, ne doit pas être associé au premier. Par exemple, imaginons que je souhaite faire un don avec BIP47 à un mouvement de protestation pacifique au Canada. Cette organisation a publié son code directement sur son site web ou sur ses réseaux sociaux. Ce code est donc associé au mouvement. Je récupère ce code de paiement, et avant de pouvoir leur envoyer une transaction, je dois m'assurer qu'ils sont en connaissance de mon code de paiement personnel qui est également associé à mon identité puisque je l'utilise pour recevoir des transactions depuis mes réseaux sociaux. Comment puis-je le leur transmettre ? Si je leur envoie avec un moyen de communication classique, l'information risque de fuiter et je risque d'être fiché comme une personne qui soutient des mouvements pacifiques. La transaction de notification n'est certes pas la seule option pour transmettre le code de paiement de l'expéditeur secrètement, mais elle remplit pour l'instant parfaitement ce rôle en appliquant plusieurs couches de sécurité. En réalité, pour le modèle de confidentialité classique de Bitcoin, il est souvent difficile de casser complètement le flux d'informations entre la paire de clés et l'utilisateur, notamment lorsque l'on réalise des transactions à distance. Par exemple, dans le cas d'une campagne de donation, le destinataire sera obligé de révéler une adresse ou une clé publique sur son site web ou sur ses réseaux sociaux. L'utilisation propre du BIP47, c'est-à-dire avec la transaction de notification, permet de résoudre cela grâce à ECDHE et à la couche de chiffrement que nous allons étudier. Évidemment, le modèle de confidentialité classique de Bitcoin s'observe toujours au niveau des clés publiques éphémères dérivées à partir de l'association des deux codes de paiement. Les deux modèles sont interdépendants. Je souhaite simplement mettre en avant ici que, contrairement à l'utilisation classique d'une clé publique pour recevoir des bitcoins, le code de paiement peut être associé, lui, à une identité. Car l'information « Bob fait une transaction avec Alice » est cassée à un autre moment. Le code de paiement est utilisé pour générer des adresses de paiement, mais en observant uniquement la blockchain, il est impossible d'associer une transaction de paiement BIP47 au code de paiement utilisé pour réaliser celle-ci. Construction de la transaction de notification. Maintenant, voyons comment fonctionne cette transaction de notification. Imaginons qu'Alice souhaite envoyer des fonds à Bob avec BIP47. Dans mon exemple, Alice agit comme l'expéditrice et Bob comme le destinataire. Ce dernier a publié son code de paiement sur son site web et Alice est donc déjà en connaissance du code de paiement de Bob. Première étape, Alice calcule un secret partagé avec ECDH. Premier point de cette étape, elle sélectionne une paire de clés au sein de son portefeuille HD se trouvant sur une branche différente de son code de paiement. Attention, cette paire ne doit pas être associée facilement à l'adresse de notification d'Alice, ni à l'identité d'Alice, voire partie précédente. Alice sélectionne ensuite la clé privée de cette paire, que nous nommons A minuscule. Troisième point, Alice récupère la clé publique associée à l'adresse de notification de Bob. Cette clé est la première fille dérivée depuis le code de paiement de Bob index 0, et nous nommons cette clé publique B majuscule, Bob majuscule. La clé privée associée à cette clé publique est nommée B minuscule, et donc B majuscule est déterminée par addition et doublement de points sur la courbe elliptique depuis G, le point générateur, avec B minuscule, la clé privée de Bob. Alice calcule ensuite un point secret S majuscule sur la courbe elliptique par addition et doublement de points en appliquant sa clé privée personnelle, c'est-à-dire A minuscule, à partir de la clé publique de Bob, c'est-à-dire B majuscule. On a donc S majuscule est égal A minuscule fois B majuscule. Alice calcule ce que l'on appelle le facteur aveuglant, F, qui va permettre de chiffrer son code de paiement. Pour cela, elle va déterminer un nombre pseudo-aléatoire avec la fonction HMAXA512. Et en seconde entrée de cette fonction, elle utilise une valeur que seul Bob sera en capacité de trouver, c'est-à-dire X, qui est l'abscisse du point secret calculé précédemment. Et la première entrée, donc l'autre entrée, c'est O, qui est tout simplement l'UTXO consommé en input de cette transaction, donc ce qu'on va appeler en anglais « outpoint ». On a donc F, c'est-à-dire le facteur aveuglant, est égal à HMAXA512, avec comme entrée de la fonction l'outpoint, et l'abscisse du point secret S calculé précédemment. Deuxième étape, Alice convertit son code de paiement personnel en base 2, donc en binaire, c'est-à-dire des 0 et des 1. Ensuite, troisième étape, elle utilise ce facteur aveuglant comme clé pour réaliser un chiffrement symétrique sur la charge utile de son code de paiement. L'algorithme de chiffrement utilisé est simplement un XOR. L'opération effectuée est comparable à un petit peu à un chiffre de Vernam, qui est également nommé le masque jetable ou en anglais One Time Pad Cipher. Alice sépare donc dans un premier temps son facteur aveuglant en deux. Elle va avoir les 32 premiers octets qui sont nommés F1 et les 32 derniers octets qui sont nommés F2. On a donc F est égal F1 concaténation F2. Alice calcule le chiffré X' de l'abscisse de la clé publique X de son code de paiement. Et le chiffré C' de son code de chaîne C séparément. F1 et F2 agissent respectivement comme clé de chiffrement, et l'opération utilisée est le XOR pour chiffrer. Le XOR, c'est le OU exclusif. On a donc X', c'est-à-dire X chiffré, est égal à X XOR F1, et C' est égal à C XOR F2. Alice remplace les valeurs de l'abscisse de la clé publique X et du code de chaîne C dans son code de paiement par les valeurs chiffrées X' et C'. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle vient de faire, Alice ? Elle vient tout simplement de prendre son code de paiement personnel, elle doit l'envoyer à Bob, elle doit être sûre que ça passe par le réseau Bitcoin pour que Bob puisse le régénérer depuis sa seed, mais elle ne veut pas que les autres utilisateurs de Bitcoin, puisque c'est public, tout le monde peut le voir, puissent comprendre son code de paiement, puissent le voir, puissent l'analyser. Si des observateurs extérieurs y ont accès, ils pourraient complètement tracer tous les paiements liés à cela. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va calculer un point grâce à ECDH, un point secret dont seul Bob pourra recalculer ce point. Elle va utiliser ce point secret qu'elle vient de calculer via différents calculs. Elle ne va pas utiliser directement ce point, mais elle va faire un petit peu des calculs sur ce point. Mais finalement, l'information de base, c'est bien ce point secret dont elle seule a connaissance et dont seul Bob sera capable de recalculer ce point, la valeur exacte. Puis Alice va prendre son code de paiement réutilisable, qui fondamentalement, un code de paiement, c'est quoi ? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la charge utile du code de paiement, c'est une clé publique et un code de chaîne. C'est les deux informations utiles dans le code de paiement. Elle va prendre ça, Alice, et elle va le cacher, comme ça on est sûr qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à elle. Comment elle le cache ? Elle le cache en le chiffrant, en utilisant le XOR, justement, cette fonction dont on va parler juste après. Et elle utilise comme clé de chiffrement, notamment secret partagé avec Bob. Comme ça, elle peut envoyer son code de paiement à Bob. Bob pourra recalculer le point parce qu'il a les informations nécessaires et c'est le seul à disposer des informations nécessaires pour calculer ce point. Et avec le point, il pourra déchiffrer le code de paiement d'Alice et accéder à son code de paiement. Avant de continuer la description technique de cette transaction BIP47 et de la transaction de notification, attardons-nous quelques instants sur cette opération XOR ou exclusif. Le XOR est un opérateur logique au niveau des bits fondé sur l'algèbre de Boal, et à partir de deux opérandes en bits, il renvoie 1 si les bits de même rang sont différents, et il renvoie 0 si les bits de même rang sont égaux, tout simplement. Donc voici la table de vérité du XOR en fonction des valeurs des opérandes D et E. Par exemple, si on a D égale à 0, E égale à 0, on va avoir D XOR E égale à 0, puisque ce sont les mêmes opérandes, 0, 0 égale 0. Si on a les mêmes opérandes D, E égale à 1, c'est-à-dire D XOR E, donc D XOR E sera égal à 0 également, puisque 1 et 1 sont les mêmes. Par contre, si D et E, c'est-à-dire les deux opérandes du XOR, sont différents, par exemple D égale 0 et E égale 1, on aura D XOR E égale 1. Inversement, si D égale à 1 et C égale à 0, c'est-à-dire des opérandes encore différentes, D XOR E sera égal à 1. Donc le XOR, fondamentalement, il va renvoyer sur les bits de même rang 0 si les deux opérandes sont égales et 1 si les deux opérandes sont différentes. Donc on va prendre un exemple rapide. Si on a une suite de bits qui est égale à 0, 1, 1, 0, quand on va la XORer avec 1, 1, 1, 0, ça va nous donner 1, 0, 0, 0. Donc les bits de premier rang 0 et 1, ça va nous donner 1, puisqu'ils sont différents. Ensuite, on traite les bits de deuxième rang. On a 1 et 1, ça va nous donner 0. Troisième rang, on a 1 et 1, ça nous donne 0, puisque ce sont les mêmes, encore une fois. Et quatrième rang, on a 0 et 0, ce sont les mêmes, donc ça nous donne 0. Donc le résultat de cette opération XOR en exemple serait 1, 0, 0, 0. Avec ECDH, l'utilisation du XOR comme couche de chiffrement est particulièrement cohérente. D'abord, grâce à cet opérateur, le chiffrement est symétrique. Cela va permettre au destinataire de déchiffrer le code de paiement avec la même clé qui a permis le chiffrement. La clé de chiffrement et de déchiffrement est calculée à partir du secret partagé grâce à ECDH. Cette symétrie est permise par les propriétés de commutativité et d'associativité de l'opérateur XOR. Typiquement, si on fait D XOR D, ça va nous donner 0, c'est-à-dire quand on a un nombre et qu'on le XOR à lui-même, ça nous donne toujours 0. Quand on a un nombre et qu'on le XOR à 0, ça nous donne le même nombre. Par exemple, si l'on a D XOR 0, eh bien ce sera égal à D. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que la commutativité ? La commutativité, ça va être tout simplement, par exemple, si on a D XOR E, ça sera égal à E XOR D. Voilà. D XOR E est égal à E XOR D. Tout comme si vous faites la commutativité sur l'addition, par exemple, si on a 2 plus 1 égale 3, eh bien, si on a 1 plus 2, ça sera encore égal à 3. Donc, on a bien la commutativité sur une opération d'addition classique sur des décimaux. Eh bien là, le XOR bénéficie également de cette opération de commutativité. D XOR E est égal E XOR D. Ensuite, qu'est-ce que l'associativité ? L'associativité, c'est tout simplement le fait que les propriétés mathématiques n'ont pas d'importance dans le résultat du calcul. Donc, par exemple, si on a D XOR entre parenthèses E XOR Z, ça sera égal à, entre parenthèses, D XOR E, fermez les parenthèses, XOR Z, et ce sera également égal à D XOR E XOR Z. C'est ça l'associativité, c'est qu'on peut librement changer les priorités, ça nous donnera le même résultat. Et donc la symétrie de cet opérateur XOR, elle peut se vérifier. Par exemple, si on a D XOR E est égal à L, eh bien alors D XOR L est égal à D XOR entre parenthèses, D XOR E, est égal à D XOR E, est égal à 0 XOR E, est égal à E. On a donc bien D XOR L est égal à E, et donc D XOR E est égal à L. Donc c'est ça, en fait, la symétrie. Et ça, c'est ce qui va nous permettre, en fait, d'utiliser la clé de chiffrement, qui ici est déterminée à partir du point secret ECDH. Et grâce à cette clé de chiffrement, Alice va pouvoir l'appliquer sur son message qu'elle souhaite transmettre, en l'occurrence une partie de son code de paiement réutilisable. Ça va lui donner son code de paiement réutilisable chiffré qu'elle va transmettre à Bob. Et Bob, avec cette même clé de chiffrement, il pourra déchiffrer cette information et ça va lui donner pile poil l'information non chiffrée qu'Alice dispose de son côté et qu'elle voulait transmettre à Bob. Ensuite, cette méthode de chiffrement ressemble beaucoup au chiffre de Vernam, également appelé one-time pad, le seul algorithme de chiffrement connu à ce jour qui dispose d'une sécurité dite inconditionnelle ou absolue. Pour que le chiffre de Vernam dispose de cette caractéristique, il faut que la clé de chiffrement soit parfaitement aléatoire, qu'elle soit de même taille que le message et qu'elle ne soit pas utilisée qu'une seule fois. Dans la méthode de chiffrement utilisée ici pour le BIP47, la clé est bien de même taille que le message, le facteur aveuglant fait exactement la même taille que la concaténation de l'abscisse de la clé publique et le code de chaîne du code de paiement, et cette clé de chiffrement est bien utilisée une seule fois. En revanche, cette clé n'est pas issue d'un parfait aléa puisqu'elle est issue d'un HMAC. Donc elle est plutôt pseudo-aléatoire. Ce n'est pas un vrai chiffre de Vernam dans le BIP47, mais c'est une méthode qui s'en rapproche. Revenons à notre construction de la transaction de notification. En quatrième étape, Alice dispose donc actuellement de son code de paiement avec une charge utile chiffrée et elle va construire et diffuser une transaction Bitcoin impliquant sa clé publique A majuscule en input, un output à destination de l'adresse de notification de Bob et une sortie up-return constituée de son code de paiement avec la charge utile chiffrée. Cette transaction, c'est la transaction de notification. L'op-return, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un opcode, c'est-à-dire un script qui permet de marquer une sortie de transaction Bitcoin comme invalide. Aujourd'hui, il est utilisé pour diffuser ou pour ancrer de l'information sur la blockchain Bitcoin. On peut y stocker jusqu'à 80 octets de data qui sont inscrites sur la chaîne et donc visibles par tous les autres utilisateurs. Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, Diffie-Hellman est utilisé pour générer un secret partagé entre les deux utilisateurs qui communiquent sur un réseau non sécurisé et potentiellement observé par des attaquants. Dans le BIP47, ECDH est utilisé pour pouvoir communiquer sur le réseau Bitcoin, qui par nature est un réseau de communication transparent et observé par de nombreux attaquants. Et le secret partagé calculé grâce à l'échange de clés Diffie-Hellman sur la courbe elliptique est ensuite utilisé pour chiffrer l'information secrète à transmettre, c'est-à-dire le code de paiement de l'expéditeur Alice. Donc je récapitule les étapes que l'on vient de voir ensemble pour réaliser une transaction de notification. Tout d'abord, Alice récupère le code de paiement de l'adresse de notification de Bob. Ensuite, Alice sélectionne un outil EXO qui lui appartient sur son portefeuille HD avec la paire de clés correspondante. Elle calcule un point secret sur la courbe elliptique grâce à ECDH. Elle utilise ce point secret pour calculer un HMAC qui est un facteur aveuglant. Elle utilise ce facteur aveuglant pour chiffrer la charge utile de son code de paiement personnel et elle utilise une sortie de transaction up-return pour transférer le code de paiement masqué à Bob. Afin de comprendre plus en détail son fonctionnement et notamment l'utilisation de l'up-return, on peut étudier une vraie transaction de notification. Donc si vous voulez la retrouver, j'en avais effectué une sur le testnet que vous pouvez retrouver donc, sur mon article disponible sur mon site web. Si vous voulez voir concrètement à quoi ressemble une transaction de notification. En observant celle que j'ai mise sur mon article, on peut voir que le premier output est un up-return qui contient mon code de paiement masqué. Le deuxième output de 546 sats pointe vers l'adresse de notification de mon destinataire. Le troisième output, 15 000 sats, représente les frais de service, car j'ai utilisé en l'occurrence Samurai Wallet pour construire cette transaction. Le quatrième output de 2 millions de sats représente le change, c'est-à-dire la différence restante entre mon input qui revient vers une autre adresse m'appartenant. Voilà. Donc grosso modo, ça ressemble à ça. Si on regarde un petit peu sur cette transaction de notification que j'étudiais dans l'article, ce qu'il y a dans l'up-return, donc on peut y découvrir le script en hexadécimal. On peut voir qu'il y a différents opcodes, donc il y a effectivement évidemment l'opcode up-return qui s'écrit en hexadécimal 0x6a. Et ensuite, il y a un autre opcode qui est l'op-pushdata-1 qui se décrit en hexadécimal par 4c. Ensuite, on peut voir qu'il y a un octet qui va indiquer la taille de la charge utile de l'op-return qui va suivre. En l'occurrence, en hexadécimal, cela donne 50. En décimal, 50, c'est égal à 80. Donc, puisqu'on sait qu'on a une charge utile de l'up-return de 80 octets, donc c'est à ça que sert cet octet où il y a marqué 0x50. Ensuite, on peut voir qu'il y a les métadonnées de mon code de paiement qui sont en clair, donc les métadonnées que l'on a vues tout à l'heure, la version, le champ de bits et la parité de la clé publique, du coup. Tout ça, on s'en fout, on peut les transmettre. Ensuite, on peut voir sur cet up-return également l'abscisse de la clé publique de mon code de paiement, mais du coup, on ne peut pas vraiment la voir puisqu'elle est chiffrée. Et on peut reconnaître également le code de chaîne de mon code de paiement.
Celui-ci, on ne peut également pas le voir puisqu'il est masqué, il est chiffré.
Et à la fin, on a du rembourrage pour arriver à 80 octets. Et donc là-dessus, on voit bien que finalement, ce qui est chiffré, c'est uniquement la charge utile du code de paiement. Donc la seule chose qui est chiffrée dans cet up-return, ça va être l'abscisse de la clé publique de mon code de paiement réutilisable et le code de chaîne de mon code de paiement réutilisable. Ce sont les deux seules informations qui sont chiffrées. Réception de la transaction de notification. Maintenant qu'Alice a envoyé la transaction de notification à Bob, voyons comment celui-ci l'interprète. Pour rappel, Bob doit obligatoirement pouvoir accéder au code de paiement d'Alice. Sans cette information, comme nous allons le voir dans la partie suivante, il ne pourra pas dériver les paires de clés créées par Alice, et donc il ne pourra pas accéder à ses bitcoins reçus avec BIP47. Pour le moment, la charge utile du code de paiement d'Alice est chiffrée. Voyons ensemble comment Bob la déchiffre. Première étape, Bob surveille les transactions qui créent des sorties avec son adresse de notification. Deuxième étape, lorsqu'une transaction dispose d'un output sur son adresse de notification, Bob l'analyse pour voir si elle contient une sortie up-return respectant le standard BIP47. Troisième étape, le premier octet de la charge utile de l'up-return est 0x01, Bob va commencer sa recherche d'un éventuel secret partagé avec ECDH. Comment il fait ça? Eh bien, il sélectionne la clé publique en input de la transaction, c'est-à-dire la clé publique d'Alice nommée A majuscule. Pour rappel, côté Alice, A majuscule, ça avait été calculé en faisant A minuscule fois G, mais ça, Bob, il n'y a pas accès. Il n'a pas accès à A minuscule puisque c'est la clé privée d'Alice. Bob sélectionne sa clé privée personnelle, c'est-à-dire B, qui est associée à son adresse de notification, B minuscule. Bob calcule le point secret S, secret partagé, donc ECDH, sur la courbe elliptique par addition et doublement de points en appliquant sa clé privée B minuscule sur la clé publique d'Alice A majuscule. On a donc S, le secret partagé, qui est égal à B minuscule fois A majuscule. Bob détermine ensuite le facteur aveuglant F qui va permettre de déchiffrer la charge utile du code de paiement d'Alice. De la même manière qu'Alice l'avait calculé précédemment, Bob va trouver F en appliquant HMAX SHA-512 sur X, la valeur de l'abscisse du point secret S, et sur O, l'UTXO consommé en input de cette transaction de notification. Donc on a bien F, facteur aveuglant, qui est égal à HMAX SHA-512 avec en entrée, entre parenthèses, O et X, donc l'outpoint, et l'abscisse de la clé publique. Bob interprète les données qu'il a reçues dans l'op return dans la transaction de notification comme un code de paiement. Il va simplement déchiffrer la charge utile de ce potentiel code de paiement grâce au facteur aveuglant qu'il vient de calculer, c'est-à-dire F. Bob va donc séparer le facteur aveuglant F en deux parties, tout comme l'avait fait Alice. Les 32 premiers octets de F seront F1 et les 32 derniers octets de F seront F2. Et Bob déchiffre la valeur de l'abscisse chiffrée X' de la clé publique du code de paiement d'Alice. On a donc X est égal X' XOR F1. Et Bob va également déchiffrer la valeur du code de chaîne chiffré C' du code de paiement d'Alice. On a donc C est égal C' XOR F2. Bob va vérifier si la clé publique du code de paiement d'Alice fait bien partie du groupe SECP256K1. Si c'est bien le cas, il interprète cela comme un code de paiement valide. Sinon, il ignore cette transaction. Maintenant que Bob est en connaissance du code de paiement d'Alice, celle-ci peut lui envoyer jusqu'à 2 puissance 32 paiements sans avoir plus jamais besoin de refaire une transaction de notification de ce type. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Comment Bob peut-il parvenir à déterminer le même facteur aveuglant qu'Alice et donc à déchiffrer son code de paiement? Étudions plus en détail l'action de CDH dans ce que l'on vient de décrire. Tout d'abord, nous avons affaire à un chiffrement symétrique. Cela veut dire que la clé de chiffrement et la clé de déchiffrement sont la même valeur. Cette clé, dans la transaction de notification, c'est le facteur aveuglant F est égal F1 concaténation F2. Il faut donc qu'Alice et Bob obtiennent la même valeur pour F, sans pour autant le transmettre directement, puisqu'un attaquant pourrait le subtiliser et déchiffrer l'information secrète. Ce facteur aveuglant est obtenu en appliquant HMAC SHA-512 sur deux valeurs, l'abscisse d'un coin secret et l'UTXO consommé en entrée de la transaction. Bob doit donc disposer de ces deux informations pour déchiffrer la charge utile du code de paiement d'Alice. Pour l'UTXO en input, Bob peut simplement le récupérer en observant la transaction de notification. Pour le point secret, Bob va devoir utiliser ECDH. Comme vu dans la partie sur Diffie-Hellman, c'est simplement en s'échangeant leurs clés publiques respectives et en appliquant secrètement leurs clés privées sur la clé publique de l'autre, qu'Alice et Bob peuvent trouver un point précis et secret sur la courbe elliptique. La transaction de notification s'appuie sur ce mécanisme. On a donc la paire de clés de Bob qui est égale à B majuscule est égale à B minuscule fois G, et la paire de clés d'Alice qui est A majuscule et qui est égale à A minuscule fois G. Pour un point secret S aux coordonnées XY qui est égale à A minuscule fois B majuscule étant égal à B minuscule fois G, on a donc bien S est égal A fois B fois G, donc S est égal à B fois A fois G, et puisque A fois G est égal à A majuscule, on a bien S est égal à B fois A majuscule. Donc au final, ils ont le même secret partagé, ils ont exactement le même point sur les courbes elliptiques. Tout cela peut paraître assez magique, mais non, cela fonctionne bien. On a bien à la fin, S est égal à minuscule fois B majuscule, et S est égal à B minuscule fois A majuscule. Et donc maintenant que Bob connaît le code de paiement d'Alice, il va être en capacité de détecter les paiements BIP47 de celle-ci, qui vont entrer dans son portefeuille personnel, et il pourra dériver les clés privées bloquant les bitcoins reçus. Je récapitule rapidement les étapes que l'on vient de voir ensemble pour réceptionner et interpréter une transaction de notification. Bob surveille les sorties de transactions vers son adresse de notification. Lorsqu'il en détecte une, il récupère les informations contenues dans l'op return qui est associée à une autre sortie. Bob sélectionne la clé publique en input et calcule un point secret grâce à ECDH. Il utilise ce point secret pour calculer un HMAC qui est le facteur aveuglant. Il utilise ce facteur aveuglant pour déchiffrer la charge utile du code de paiement d'Alice contenu dans l'op return. La transaction de paiement BIP47. Étudions maintenant ensemble le processus de paiement avec BIP47. Pour vous rappeler l'état actuel de la situation, on a Alice qui est en connaissance du code de paiement de Bob qu'elle a simplement récupéré sur son site web. On a Bob qui est en connaissance du code de paiement d'Alice grâce à la transaction de notification. Et Alice qui va réaliser un premier paiement vers Bob, vers une adresse vierge, puisque n'oublions jamais que le but premier de BIP47, c'est que l'expéditeur puisse dériver des adresses vierges indépendamment du receveur et des adresses qui soient réellement jamais utilisées, en faisant comme une dérivation un petit peu croisée entre les codes de paiement des deux protagonistes. Et ce, afin que toute autre personne ayant accès au code de paiement de Bob ne puisse pas remonter vers les adresses éphémères dérivées par Alice. Et c'est ça le gros avantage de BIP47 par rapport à l'utilisation simple d'une XPub. Vous pouvez mettre votre XPub sur votre site web et dire « j'accepte les donations dérivées des clés publiques directement depuis cette XPub ». Mais tout le monde pourra dériver toutes les clés publiques et voir tous les paiements que vous avez reçus. Et tout le monde va dériver les mêmes adresses au début, donc il va pouvoir y avoir encore peut-être des réutilisations d'adresses. Avec le BIP47, non. Là, les adresses sont uniques pour Alice et Bob. Si on a Charles qui arrive et que Charles veut faire une transaction avec Bob depuis son code de paiement, les adresses dérivées entre Charles et Bob n'auront rien à voir avec les adresses dérivées pourtant vers le même code de paiement chez Alice. Voilà, donc je continue. Avant de vous expliquer ce processus, je pense qu'il est important de rappeler sur quels index nous travaillons actuellement. On décrit le chemin de dérivation d'un code de paiement comme ceci. M/47'/0'/0'. La profondeur suivante répartit les index de cette manière. La première perfille normale non renforcée est celle utilisée pour générer l'adresse de notification dont nous avons parlé dans la partie précédente, qui sera égale en l'occurrence à l'index 0. Les paires de clés filles normales utilisées au sein de CDH pour générer des adresses de réception de paiement BIP47, comme nous allons le voir dans cette partie, sont à partir de M47'/0'/0'. Et ensuite avec un index de 0 à 2 147 483 647, c'est-à-dire 2 puissance 31. Et ensuite, les paires de clés filles renforcées, cette fois, sont des codes de paiement éphémères. Donc, chaque fois qu'Alice souhaite envoyer un paiement à Bob, elle dérive une nouvelle adresse vierge unique grâce, une nouvelle fois, au protocole ECDH. Alice sélectionne la première clé privée dérivée depuis son code de paiement réutilisable personnel, A minuscule. Alice sélectionne la première clé publique inutilisée dérivée depuis le code de paiement de Bob. Cette clé publique, nous l'appellerons B majuscule. Elle est associée à la clé privée B minuscule dont seul Bob a connaissance. On a donc du côté de Bob, B majuscule est égal B minuscule fois G. Alice calcule un point secret S majuscule sur la courbe elliptique par addition et doublement de points en appliquant sa clé privée A minuscule à partir de la clé publique de Bob B majuscule. Donc on a bien S est égal A minuscule fois B majuscule. À partir de ce point secret, Alice va calculer le secret partagé S minuscule. Pour ce faire, elle sélectionne l'abscisse du point secret S majuscule nommé SX et elle passe cette valeur dans la fonction de hachage SHA-256. On a donc S minuscule est égal SHA-256 entre parenthèses SX. Alice utilise ce secret partagé pour calculer une adresse de réception de paiement Bitcoin. Dans un premier temps, elle vérifie que S minuscule est bien contenu dans l'ordre de la courbe SECP256K1. Si ce n'est pas le cas, elle incrémente l'index de la clé publique de Bob afin de dériver un autre secret partagé. Dans un second temps, elle calcule une clé publique K majuscule 0 en additionnant sur la courbe elliptique les points B majuscule et SG. En d'autres termes, Alice additionne la clé publique dérivée depuis le code de paiement de Bob B avec un autre point calculé sur la courbe elliptique par addition et doublement de points avec le secret partagé cette fois depuis le point générateur, un petit peu comme si c'était une clé privée de la courbe SECP256K1. Donc ce nouveau point représente une clé publique et nous le nommons K0. On a donc, je récapitule, K0 qui est égal à B majuscule plus S minuscule fois G. Avec cette clé publique K0, Alice peut dériver une adresse de réception vierge de façon standard, par exemple une SegWit V0 en Bech 32. Et une fois qu'Alice dispose de cette adresse de réception K0 appartenant à Bob, elle peut tout simplement construire une transaction Bitcoin classique en sélectionnant un UTXO qui lui appartient sur une autre branche de son portefeuille HD, peu importe, et en dépensant vers l'adresse K0 de Bob qu'elle vient elle-même de dériver sans pour autant avoir accès ni à une XPub, ni à une clé privée, ni à rien. Alors, je récapitule les étapes que l'on vient de voir ensemble pour envoyer un paiement BIP47. Alice sélectionne la première clé privée fille dérivée depuis son code de paiement personnel. Elle calcule un point secret sur la courbe elliptique grâce à ECDH à partir de la première clé publique fille utilisée dérivée depuis le code de paiement de Bob. Elle utilise ce point secret pour calculer un secret partagé avec SHA-256. Elle utilise ce secret partagé pour calculer un nouveau point secret sur la courbe elliptique. Elle additionne ce nouveau point secret avec la clé publique de Bob. Elle obtient une nouvelle clé publique éphémère pour laquelle seul Bob dispose de la clé privée associée. et Alice peut ainsi envoyer une transaction classique vers Bob avec l'adresse de réception éphémère dérivée. Si elle souhaite effectuer un second paiement, elle va simplement reproduire les étapes susmentionnées, mis à part qu'elle va sélectionner la seconde clé publique dérivée depuis le code de paiement de Bob pour effectuer tous ses calculs, c'est-à-dire la prochaine clé inutilisée. Elle disposera alors d'une seconde adresse de réception appartenant à Bob que l'on pourrait nommer K majuscule 1. Elle peut continuer ainsi de suite et dériver jusqu'à 2 puissance 32 adresses vierges différentes appartenant à Bob. D'un point de vue extérieur, en observant la blockchain Bitcoin, il est en théorie impossible de différencier un paiement BIP47 d'un paiement classique. Cela ressemble à une transaction classique avec sûrement un input consommé ou même plusieurs inputs et un output de paiement et peut-être un output de change. Cela va ressembler vraiment à une transaction classique. Si vous souhaitez voir un petit peu à quoi ressemble on-chain un paiement BIP47, je vous invite à aller voir l'article que je suis en train de vous lire sur le site pendule.fr dans la section blog. Et dans cette partie, je vous ai mis une TXID d'une transaction BIP47 que j'ai moi-même fait. Donc comme ça, vous pouvez aller voir comment ça fonctionne. Réception du paiement BIP47 et dérivation de la clé privée. Alice vient d'effectuer son premier paiement vers une adresse vierge BIP47 appartenant à Bob. Maintenant, voyons ensemble comment Bob réceptionne ce paiement. Nous allons également voir pourquoi Alice n'a pas accès à la clé privée de l'adresse qu'elle vient pourtant de générer et comment Bob retrouve cette clé permettant de dépenser les bitcoins qu'il vient de recevoir. Dès que Bob reçoit la transaction de notification de la part d'Alice, il dérive la clé publique BIP47K0 avant même que sa correspondante n'y ait envoyé de paiement. Il peut donc déjà observer tout paiement entrant vers l'adresse associée. En réalité, il va même dériver immédiatement plusieurs adresses qu'il va observer, K0, K1, K2, K3, etc. Voici comment il dérive toutes ces clés publiques, et notamment la clé publique K0 dont nous avons parlé précédemment. Bob sélectionne la première clé privée fille dérivée depuis son code de paiement. Cette clé privée est nommée B minuscule, elle est associée à la clé publique B majuscule avec laquelle Alice avait fait ses calculs dans l'étape précédente. Bob sélectionne la première clé publique d'Alice dérivée depuis son code de paiement. Cette clé est nommée A majuscule. Elle est associée à la clé privée A minuscule avec laquelle Alice avait fait ses calculs et dont seule Alice a connaissance. Bob peut réaliser ce processus puisqu'il est en connaissance du code de paiement d'Alice qui lui a été transmis avec la transaction de notification. On a donc bien A majuscule est égal A minuscule fois G, mais A minuscule, il y a uniquement Alice qui connaît la valeur de A minuscule. Bob calcule ensuite le point secret S majuscule par addition et doublement de points sur la courbe elliptique en appliquant sa clé privée B minuscule sur la clé publique d'Alice A majuscule. On retrouve ici l'utilisation de CDH qui nous garantit que ce point S secret sera le même pour Bob et pour Alice. On a donc bien S est égal B minuscule fois A. De la même manière que l'a fait Alice, Bob isole l'abscisse de ce point S. Nous avons nommé cette valeur précédemment SX. Il passe cette valeur dans la fonction SHA-256 pour trouver le secret partagé S minuscule. Toujours de la même manière qu'Alice, Bob calcule le point S minuscule fois G sur la courbe elliptique, puis il additionne ce point secret avec sa clé publique B. Il obtient alors un nouveau point sur la courbe elliptique qu'il interprète comme une clé publique K0. On a donc bien K0 est égal B majuscule plus S minuscule fois G. Une fois que Bob dispose de cette clé publique K0, il peut dériver la clé privée associée afin de pouvoir dépenser plus tard ses bitcoins. C'est le seul à pouvoir générer ce nombre. C'est également une des caractéristiques essentielles du BIP47, c'est que seul le destinataire doit avoir accès à la clé privée éphémère, permettant de débloquer le paiement qui est entrant vers lui, évidemment. Donc Bob il va additionner sa clé privée phi B minuscule dérivée depuis son code de paiement personnel. C'est le seul à pouvoir obtenir la valeur de B minuscule. Puis, il additionne B minuscule avec le secret partagé S minuscule afin d'obtenir K minuscule 0, soit la clé privée de K majuscule 0, c'est-à-dire la clé publique vers laquelle Alice avait envoyé son paiement. On a donc K minuscule 0, c'est-à-dire la clé privée de Bob, la clé privée éphémère, qui est égale à B minuscule plus S minuscule. Grâce à la loi de groupe de la courbe elliptique, Bob obtient exactement la clé privée correspondant à la clé publique utilisée par Alice. Nous avons donc bien K majuscule 0 est égal K minuscule 0 fois G. Je récapitule les étapes que l'on vient de voir ensemble pour réceptionner un paiement BIP47 et calculer la clé privée correspondante. Bob sélectionne la première clé privée fille dérivée depuis son code de paiement personnel. Il calcule un point secret sur la courbe elliptique grâce à OCDH à partir de la première clé publique fille dérivée depuis le code de chaîne d'Alice. Il utilise ce point secret pour calculer un secret partagé avec SHA-256. Il utilise ce secret partagé pour calculer un nouveau point secret sur la courbe elliptique. Il additionne ce nouveau point secret avec sa clé publique personnelle. Il obtient une nouvelle clé publique éphémère, la même vers laquelle Alice va envoyer son premier paiement. Et puis Bob, seulement Bob, calcule la clé privée associée à cette clé publique éphémère en additionnant sa clé privée fille, dérivée depuis son code de paiement personnel, et le secret partagé. Puisqu'Alice ne peut pas obtenir B minuscule, c'est-à-dire la clé privée de Bob dérivée depuis le code de paiement de Bob, et surtout depuis la clé privée du code de paiement de Bob dont elle n'a pas accès, elle est incapable de déterminer K minuscule 0, c'est-à-dire la clé privée associée à l'adresse de réception BIP47 de Bob. Et voilà, vous connaissez dorénavant tous les rouages de cette magnifique solution que représente le BIP47, pour dériver des adresses vierges. Alors, évidemment, n'ayez pas peur, tout ce que l'on a vu là, c'est le fonctionnement ultra détaillé du BIP47. Évidemment, vous n'avez pas besoin de connaître tout ça pour utiliser le BIP47. Encore une fois, je vous renvoie vers les tutoriels que j'ai mis sur mon site web. En trois clics sur une application, vous pouvez faire littéralement tout ce que l'on vient de voir dans ce podcast. C'est extrêmement simple à comprendre, tout se passe derrière le logiciel. Ce n'est pas vous qui faites tous ces petits calculs, évidemment. Utilisation dérivée de PayNim. L'implémentation de ce BIP47 sur Samurai Wallet a donné les PayNim, des identifiants calculés depuis les codes de paiement des utilisateurs. Aujourd'hui, leur utilité va bien au-delà de l'usage du BIP47. Les équipes de Samurai développent progressivement tout un écosystème d'outils et de services fondés sur le PayNim de l'utilisateur. Parmi ceux-ci, il y a évidemment tous les outils de dépense permettant d'optimiser la confidentialité de l'utilisateur tout en ajoutant de l'entropie à une transaction, et donc en ajoutant du déni plausible. L'utilisation conjointe de Soroban, le réseau de communication chiffré fondé sur Tor, et des PayNim a grandement permis d'optimiser l'expérience utilisateur lors de la construction de transactions collaboratives, tout en conservant un bon niveau de sécurité. Ainsi, on peut facilement faire des transactions Stowaway, PayJoin, Stonewall X2, sans pour autant réaliser manuellement les nombreux échanges de transactions non signées, pré-signées, nécessaires à la mise en place d'une transaction collaborative de ce type. Contrairement à l'utilisation du BIP47, puisque ces transactions collaboratives ne nécessitent pas de réaliser une transaction de notification, il suffit de relier les PayNim pour utiliser ces outils. Il n'y a pas besoin de les connecter. Si vous souhaitez en savoir plus sur les transactions collaboratives et plus largement sur tous les outils de dépense de Samurai Wallet, vous pouvez lire la partie « Les outils de dépense » dans mon article traitant le CoinJoin qui est disponible sur mon site web également, pendule.fr, section blog. Vous y trouverez une explication technique et des tutoriels détaillés pour chaque outil de Samurai. En plus de ces transactions collaboratives, on a pu observer récemment que les équipes de Samurai travaillent sur un protocole d'authentification lié à PayNim qui s'appelle OAuth47, donc pour Authentification 47. Cet outil est déjà implémenté et il permet par exemple de s'authentifier grâce à un PayNim sur un site web qui accepte cette méthode. À l'avenir, je pense qu'au-delà de cette possibilité d'authentification sur le web, OAuth47 s'inscrira dans un projet plus global autour de l'écosystème BIP47 PayNim Samurai. Peut-être que ce protocole sera utilisé pour optimiser encore plus l'expérience utilisateur du portefeuille Samurai Wallet, notamment dans son utilisation des outils de dépense. C'est à suivre. Mon avis personnel sur le BIP47. Évidemment, le principal inconvénient du BIP47 est la transaction de notification. Elle mène l'utilisateur à devoir dépenser des frais pour le minage de celle-ci, ce qui est embêtant pour certains. En revanche, l'argument du spam de la blockchain Bitcoin est absolument irrecevable. Quiconque paie les frais pour sa transaction doit être en capacité d'inscrire celle-ci sur le registre, peu importe son objectif. Affirmer le contraire, c'est se positionner en faveur de la censure. Il est possible qu'à l'avenir, d'autres solutions moins coûteuses soient trouvées afin de pouvoir communiquer le code de paiement de l'envoyeur au destinataire et afin que ce dernier puisse le stocker de façon sécurisée. Mais pour le moment, la transaction de notification demeure la solution avec le moins de compromis. Cet inconvénient reste négligeable lorsque l'on observe tous les bénéfices du BIP47. Parmi toutes les propositions existantes pour résoudre ce problème de réutilisation d'adresse, il apparaît selon moi comme la meilleure solution. Comme expliqué précédemment, la majorité des réutilisations d'adresses provient des exchanges. BIP47 est la seule solution raisonnable qui permet réellement de résoudre ce problème à la source. Toute proposition visant à réduire le nombre de réutilisations d'adresses devrait se pencher sur cet aspect et adapter la solution à la source principale du problème. En termes d'utilisation, bien que ces rouages soient assez complexes, la procédure de paiement BIP47 est enfantine. Les codes de paiement réutilisables peuvent donc être adoptés facilement, même par des utilisateurs novices. En termes de confidentialité, le BIP47 est très intéressant, comme je l'ai expliqué dans la partie sur la transaction notification. Le code de paiement ne révèle aucune information sur les adresses éphémères dérivées. Il permet donc de casser le flux d'informations entre la transaction Bitcoin et l'identifiant du receveur, contrairement à l'utilisation classique d'une adresse de réception. Et puis surtout, l'implémentation PayNim du BIP47 fonctionne. Elle est disponible sur Samurai Wallet depuis 2016 et Sparrow Wallet depuis ce début d'année 2022. Ce n'est pas un projet scientifique, mais une solution mise à l'épreuve hier et complètement fonctionnelle aujourd'hui. Espérons qu'à l'avenir, ces codes de paiement réutilisables seront adoptés par les acteurs de l'écosystème, implémentés par les logiciels de portefeuille et utilisés surtout par les bitcoiners. Toute solution réellement positive pour la confidentialité de l'utilisateur doit être débattue, poussée et défendue afin que Bitcoin ne devienne pas le terrain de jeu de CA et l'outil de surveillance des gouvernements. Il songeait à la manière dont il avait été persécuté et insulté partout, et voilà qu'il les entendait tous dire qu'il était le plus beau de tous ces beaux oiseaux. Et le sureau même inclinait ses branches vers lui, et le soleil répandait une lumière si chaude et si bienfaisante. Alors ses plumes se gonflèrent, son cou élancé se dressa, et il s'écria de tout son cœur « Comment aurais-je pu rêver tant de bonheur pendant que je n'étais qu'un vilain petit canard ?» Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Vous pouvez retrouver l'article original sur mon site web pendule.fr dans la section blog. Le titre, c'est BIP47, le vilain petit canard. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.